Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on poursuit notre voyage, et le terme voyage est d'autant plus justifié aujourd'hui qu'on va s'intéresser aux Français de l'étranger. Et pour ça, je reçois deux experts, Charles-Henri Chenu. Bonjour Charles-Henri.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes avocat, associé, fondateur du cabinet Chenu Oliveira Santiago. Et à vos côtés, Thierry Vignal. Bonjour Thierry.
Bonjour Cédric.
Merci d'être là également. Président de Atome. Petit nouveau, entre guillemets, en tout cas Atome, pas vous. On se connaît bien et on s'est déjà largement fréquenté sur ces sujets immobiliers. Donc, je suis ravi de vous accueillir tous les deux. Pourquoi, Charles-Henri, avoir choisi de parler des Français de l'étranger ? Alors, on sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont assez nombreux, mais c'est assez, on va dire, atypique et inhabituel parce que généralement, ils vivent aussi leur vie de leur côté, y compris fiscalement, patrimonialement. Non, aujourd'hui, on choisit de s'intéresser à eux.
Oui, alors c'est à mon avis une communauté qui vaut la peine qu'on s'y attache. Il y a à peu près 3,5 millions de Français qui vivent hors de l'Hexagone. C'est une communauté active, qui travaille, qui a un patrimoine. Et la particularité, c'est que ce patrimoine est assez peu structuré, en fait, et ils ont besoin d'orientation, de conseils, notamment en matière immobilière, qui est le premier réflexe de leur investissement. Pour des raisons qu'on peut comprendre, c'est du placement rendement, c'est du revenu locatif. Et puis aussi, beaucoup investissent dans l'immobilier pour une assurance retraite à terme.
Oui, d'autant qu'il y a certains produits d'investissement qui ne sont pas accessibles quand on n'est pas résident fiscal français, etc. Hein, donc, on n'a pas un choix non plus qui est illimité quand on est français de l'étranger, c'est ça ?
Oui, alors ça, c'est un peu une fausse idée parce qu'on pense qu'il y a des biens, des types d'investissement qui sont réservés aux résidents. En fait, la particularité française, c'est qu'il n'y a pas de discrimination entre un résident et un non-résident. Donc, en fait, le Français qui habite à l'étranger peut acquérir de l'immobilier en France. On le verra avec Thierry, c'est parfois un peu plus compliqué, notamment au niveau bancaire. Mais d'un point de vue juridique, ce n'est pas du tout discriminatoire.
Oui, non, mais je parlais d'autres produits, justement, par exemple le PEA, etc.
Ah, oui, bien sûr.
Alors, justement, Thierry, ce marché immobilier en France, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il est attractif parce qu'on... Quand on parle immobilier depuis quelques mois, on a plutôt tendance à être gens qui pleurent que gens qui rient. Vous le voyez comment ? Est-ce qu'il est toujours attractif, que ce soit à Paris, que ce soit dans les métropoles, que ce soit dans le reste du territoire, sur tel et tel type de bien ? Enfin voilà, comment vous le percevez ?
Ça se lit sur mon visage.
Oui, c'est ça.
C'est un marché triste qui est quasi mort en ce moment. Il ne se passe rien. Parce que incertitude politique, taux d'intérêt qui reste très élevé. Et en fait, c'est une super opportunité parce que c'est au son du canon qu'il faut acheter. Et en l'occurrence, pour être sur le terrain assez régulièrement, il y a très peu d'acheteurs et on fait des super négos. Et j'ai rarement vu de tels prix sur le marché parisien notamment. Donc je pense que c'est justement parce que le marché est dead qu'il faut se lancer maintenant et pas attendre que les taux baissent et que les prix remontent avec.
Et alors, vous avez une spécialité qui peut d'ailleurs intéresser des gens qui n'ont pas de besoin de se loger, etc., qui veulent faire un investissement, c'est les petites structures, et notamment à Paris. Pourquoi cibler comme ça un marché qui apparaît quasiment être un micro-marché ?
C'est un micro-marché de micro-logement. C'est un segment au sein du marché parisien qui est intéressant parce qu'il est... Il est mal pricé, quoi. Il y a une anomalie de marché sur ce segment. Ça représente un peu... moins d'un logement sur 10 à Paris qui fait moins de 14 mètres carrés. C'est la définition légale d'un micro-logement. Et ces moins de 14 mètres carrés, ils sont très difficiles à traiter pour le grand public. Et à ce titre, ils sont beaucoup moins chers.
Et pourquoi difficiles à traiter ?
Parce que c'est que des passoires thermiques. Ah oui. Ils sont tout petits. Et quand on n'est pas pro de la micro-architecture, on ne sait pas comment les équiper. On a un plafonnement des loyers assez strict. Ça fonctionne très mal comme équation sur les petites surfaces. Donc, il faut être assez bon en droit des baux pour comprendre comment s'affranchir de ces plafonnements sans illégalité, donc de manière légale, avec le bail civil, le bail mobilité, complément de loyer, etc. Et donc, comme c'est des produits techniques, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Parce qu'une fois qu'on sait comment les traiter, on les a... pas moitié prix, mais en tout cas bien en dessous de ce qu'on peut avoir sur des biens normaux et faciles. Et donc, c'est des biens qui se louent très facilement à des travailleurs nomades, à des professionnels, à des sociétés,
oui, qui ont pas besoin
et qu'on
n'achète
pas cher et qu'on loue plutôt cher.
Alors, intéressons-nous donc, voilà, le marché un peu en difficulté, mais dans lequel il y a sans doute des affaires à faire, avec cette petite spécificité qui est celle de Thierry, des petites surfaces. Charles-Henri, quand on est français de l'étranger, comment on peut appréhender l'idée d'être acquéreur immobilier, enfin d'être propriétaire immobilier en France? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des attentions particulières? Je pense notamment bien sûr à la fiscalité qu'il faut avoir en tête.
Alors, juridiquement, il n'y a pas d'obstacle particulier.
Oui, on reste français,
Pour... que ouais. Pour un résident, exactement. Important. Je rajouterais juste l'intérêt des petites structures, de ce qu'a dit Thierry tout à l'heure, c'est aussi pour un Français de l'étranger, y mettre ses enfants à Paris, par exemple, pour le temps de ses études,
exemple,
pour revenir un pied à terre, pour une retraite, quand on n'aura plus d'enfants à charge, on revient à Paris avec dans une plus petite structure, etc. Alors, pour répondre à votre question plus directement, donc juridiquement, il n'y a pas d'obstacle. Il y a peut-être un frein qu'on arrive quand même à lever, qui est la question bancaire, je l'évoquais tout à l'heure. Les banques sont un peu plus réticentes à prêter à des non-résidents, mais là encore, Thierry travaille avec des partenaires choisis qui arrivent à financer de manière très correcte. C'est quand même ça le premier frein. La question des transferts, des sommes d'argent, quelques banques ont un peu de difficulté à récupérer de l'argent de l'étranger, quel que soit le pays, puisque maintenant il y a des règles de compliance très drastiques, mais on y arrive aussi. Et puis les garanties que certaines banques peuvent demander. Si, d'un point de vue bancaire, ça peut paraître un peu plus complexe, on y arrive. Quant à la question fiscale, alors pour l'acquisition, il n'y a pas de problématique particulière. C'est plus dans la gestion du bien où il faut être en anticipation sur les loyers que vous percevez alors que vous êtes non résident en France. Il faut voir si vous avez une convention fiscale entre votre pays de résidence et la France.
Oui, on en revient toujours au même gimmick de se dire d'abord et avant tout la convention.
Voilà. Mais la question, c'est d'anticiper sur la gestion de son bien, sur ses loyers, pour pas être doublement taxé, pas une opération à perte. Et puis au moment de la revente aussi avec la plus-value. Petite attention à avoir sur le représentant fiscal, qui est une particularité.
Représentant fiscal ?
Alors, quand vous êtes propriétaire non résident, le fisc français vous impose d'avoir un représentant fiscal en France pour assurer la transaction immobilière. Ce représentant se fait payer et le représentant demande aussi une garantie, c'est-à-dire une somme, une provision sur les impôts que vous risquez un jour peut-être de payer. Alors, il faut être très vigilant.
Mais c'est quoi ? C'est un avocat ? C'est un notaire ?
Non, alors ça peut être un avocat, c'est pas un notaire, ce sont des représentants fiscaux agréés par Bercy.
Donc on ne choisit pas, on demande à son centre des impôts et...
On choisit parmi ceux qui sont agréés. Et alors comme ils ont un oligopole, vous pouvez imaginer que les prestations sont largement discutées entre eux. Et donc l'objectif, c'est d'être très vigilant. Moi, j'ai dans plein de dossiers demandés de renégociation de prestations et aussi de baisser la garantie qu'ils demandent. Parce qu'en fait, comme c'est eux qui sont garants, ils se disent, si vous avez un rappel de plus-value immobilière, moi, je veux avoir l'argent déjà encaissé.
Oui, bien sûr, pas courir
après.
Donc,
tout ça se négocie, un point important.
Mais il n'y a pas d'avantage fiscal pour un Français de l'étranger à investir,
Non, pas plus, pas moins qu'un résident ou un non-résident, quoi.
Thierry, c'est vrai que vous connaît, parce que dans une autre vie, on se croisait beaucoup pour justement investir à l'étranger. Alors, on parlait là des Français qui allaient investir à l'étranger, mais n'empêche que le problème est le même, il faut financer le bien, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Effectivement, c'est une difficulté, ça l'était dans un sens, ça l'est dans l'autre aussi, parce qu'on se dirait que finalement, une banque française qui a un... national français qui veut investir en France, normalement, ça devrait être simple, non ?
Avec une hypothèque en plus sur un bien en France, ouais. Ça devrait... malheureusement, le système est mal fait pour les financements transfrontaliers, quel que soit le sens, et je ne sais pas quand est-ce que ça sera résolu. On rêve d'un système bancaire un peu transfrontalier, mais non. Donc, les Français de l'étranger, ils subissent un apport qui est beaucoup plus important qu'un local. Il va être entre un tiers et la moitié, selon le degré d'exotisme qu'il y a dans le profil et la relation bancaire. Parfois, on a des Français de l'étranger qui ont une relation historique avec une banque familiale qui va les traiter un peu mieux. Et parfois c'est plus compliqué. Mais donc il va y avoir un tiers, la moitié d'apport. C'est pour ça que ces petits produits d'Atome, comme ils ne coûtent pas très cher, on est entre
150 000 euros. Oui, c'est plus facile à financer qu'un immense appartement.
Ouais. Comme il faut débourser du cash, là ça va chercher 50 ou plus. Donc c'est digeste.
Mais ça veut dire qu'il y a des établissements quand même qui sont plus sensibles à la question des Français de l'étranger que d'autres, quoi. Enfin, en clair,
ouais.
Une caisse locale, ça les intéresse assez peu, alors qu'une banque plutôt orientée internationale, ça les intéresse plus ?
Il y a une certaine saisonnalité. Il y a des consignes qui sont données à certains groupes bancaires en fonction de la période de l'année pour plus favoriser tel type d'emprunteur ou pas. Donc, en fonction de la saisonnalité bancaire, On va avoir telle banque qui va plus jouer le jeu. Mais le mieux, c'est de commencer par sa banque historique familiale. Et ensuite, si on a des garanties en France, évidemment, c'est beaucoup mieux quand on arrive à hypothéquer un bien qui est vierge et le mettre en garantie, ça aide évidemment à diminuer l'apport. Mais en général, c'est rarement le cas. Donc voilà, on s'en sort, mais il y a plus d'apport à mettre. Après, ça met moins de pression sur les mensualités.
Autre petite question qui valait dans le sens que j'évoquais tout à l'heure et qui peut valoir dans ce sens-là aussi, le change. C'est quelque chose qui affecte forcément en partie cette transaction, cet investissement, que ce soit au moment de l'achat, qu'au moment de, entre guillemets, de l'exploitation, du rendement.
Ça peut être aussi l'opportunité de gagner de l'argent.
Ouais, aussi.
Alors, on peut neutraliser ce risque. Je crois que HSBC offre du hedge de prêt. Enfin, il y a pas mal de banques qui offrent un système où on peut hedger le Forex. Moi, dans une autre vie, j'étais trader Forex chez HSBC et j'ai toujours trouvé très intéressant de coupler le risque IMO avec le risque FX, Forex, des devises étrangères et donc pouvoir profiter des deux tableaux. Ça rajoute un peu de piment à l'opération.
C'est réservé aux spécialistes quand même.
Mais c'est vrai que si on n'a pas envie de s'exposer à un double risque, après le prêt, il est en euros, il va être remboursé par un loyer en euros, donc ouais. Ça reste quand même assez maîtrisé localement. Mais sinon, il y a des produits bancaires qui permettent de se couvrir.
Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil stratégique, Charles-Henri, à un investisseur qui nous écouterait, on l'imagine plutôt en podcast, parce que les fuseaux horaires peuvent nous séparer du direct. Quels sont les conseils stratégiques d'investissement pour un non-résident ?
Alors, je pense que le premier conseil essentiel, c'est l'anticipation dans l'accompagnement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont à 10 000 km, peut-être un peu moins, mais loin, et qui n'ont aucune idée de ce qui peut se passer, le nombre d'interlocuteurs que vous pouvez avoir en France. Donc, de choisir une personne qui a l'ADN de Français de l'étranger ici, qui puisse être le point de passage, le point de ralliement de l'ensemble des autres interlocuteurs, le one-stop-shop, en fait, de cet acquéreur à l'étranger, et qui fera l'intermédiation avec le notaire, le banquier, l'assureur, avec les fuseaux horaires, etc. Donc, une anticipation dans l'accompagnement, choisir la personne idéale.
Déjà, ne pas le faire tout seul.
Non. Il faut vraiment avoir la personne de référence unique, le family officer qui gérera votre projet d'acquisition. Le second point qui me paraît essentiel, c'est une anticipation dans le coût. Parce qu'en fait, on réfléchit trop vite à « ça va me coûter le prix de l'acquisition ». Oui, mais non. Il y a beaucoup de choses qui vont s'additionner. Les frais notariés, les travaux, l'agent immobilier, le coût de l'assureur. Donc l'idée, c'est quand même une anticipation sur l'enveloppe globale. Et là, moi, j'ai eu des cas où vous aviez des investisseurs qui partaient un peu la fleur aux dents, en disant « j'ai le budget pour acheter ». Mais quand finalement, on packageait l'ensemble
de l'opération, on leur avait tout mis, là, du coup, ça ne passait
plus du tout. Voilà. Donc anticiper le coût global, l'enveloppe réelle qu'il faudra poser sur la table.
Ces conseils, ils sont là aussi parce qu'il y a, on va dire, des erreurs types que vous avez déjà observées. Qui sont faites, en fait, presque par tout le monde quand, justement, on leur a pas mis la puce à l'oreille ?
Oui, alors, il y a deux choses. Il y a une peur de la fiscalité française et il y a une peur de la bureaucratie française, même quand vous êtes français. Parce que quand vous êtes français de l'étranger, vous avez un peu oublié ça. Et donc, l'idée, c'est de rassurer en amont en disant « c'est faisable, on gère ». On gère d'un point de vue technique, immobilier, financier, d'un point de vue juridique et fiscal. Donc, on s'occupe de tout. Le côté de one-stop-shop, de l'interlocuteur unique, ça plaît beaucoup. L'autre grand écueil sur lequel on travaille, c'est ce dont je parlais sur, finalement, combien ça va me coûter. Et on a des gens qui héritent, qui vendent leur entreprise, qui ont un peu de liquidité et qui se disent bah voilà, j'ai 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, je vais les mettre là et je sais que ça me vaut 2, 3, 4 appartements ou petits studios. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, c'est quelque chose qui se travaille bien en amont avant d'avoir la signature réelle de l'acquisition. On est loin d'un coup de cœur. Hein.
Ouais,
alors, la difficulté, c'est que l'immobilier, c'est souvent aussi.
Ça doit être plus rationnel, c'est-à-dire.
Beaucoup plus rationnel. Ouais. Parce que vous êtes à distance.
On n'achète pas pour soi, parce que on est. Ouais, voilà.
Et puis, il faut trouver les hommes de confiance et les hommes de l'art. Donc, ça prend un peu plus de temps.
Thierry, c'est vrai que Charles-Henri le rappelait. Parfois, ces Français de l'étranger, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Ça fait longtemps que ils n'ont plus de contact avec telle ou telle ville que peut-être ils ont connue, et encore que pas forcément. Comment est-ce qu'on fait de si loin, mais ça peut être Londres, hein, mais de si loin pour savoir où acheter, qu'attendre de la rentabilité. Vous avez une méthode, des outils particuliers qui permettent de saisir ça, parce qu'il y a aussi toute la gestion du bien à distance, c'est pas facile.
C'est très stressant pour un Français de l'étranger. J'en reçois pas mal, et en l'occurrence, ils sont à distance, ils ont du mal à passer à l'acte, parce que c'est pas comme un Parisien qui peut visiter en 5 minutes et avoir un coup de cœur.
Ouais, même et si on peut faire des visios et ceci,
on cela, peut faire des visios, ouais. On peut faire des scans 3D, visites virtuelles, mais il n'y a pas la réactivité qu'aura un local, et donc ils passent souvent à côté de très bonnes affaires parce qu'ils sont un peu crispés et paralysés par le stress. Ils manquent de gens de relais de confiance sur place, et ils ont une connaissance du marché qui est un peu antidatée. Par exemple, pour eux, le meilleur quartier au monde, ça va être, le 16e, alors que le 16e a légèrement bien décoté récemment, alors que le 9e, c'est un coupe-gorge. Alors que non, le 9e, depuis 10 ans, c'est devenu un quartier très prestigieux. Et donc, ils ont des a priori complètement déplacés là-dessus. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on n'a pas quelqu'un de confiance, on peut utiliser la data. La data, c'est quoi ? C'est meilleurs agents, prix au mètre carré par quartier, loyer au mètre carré par quartier, c'est des infos publiques. On regarde le revenu médian par arrondissement, qui est sur meilleurs agents aussi. On peut regarder la tension locative. C'est des indicateurs qu'on a en ligne sur Google très facilement chez LogService et compagnie. Et en fait, on va les regrouper de la data et on va voir les classements qui sont publiés dans les grands journaux économiques, qui sont assez fiables. Et je pense que partir de la donnée objective, ça permet de remettre les pendules à l'heure et ensuite avoir confirmation terrain par les experts IMO.
Et après, on se remet... il y a aussi... parce qu'on ne peut pas gérer son appartement tout seul.
Ça, pour la gestion, il y a quand même beaucoup...
Non, on ne peut pas le gérer soi-même. Venir changer une chasse d'eau qui file samedi matin depuis Rio.
Ça ne vaut pas le Rio-Paris, mais il y a...
Au Brésil.
Il y a une start-up de gestion locative qui naît toutes les semaines. Il y a vraiment pléthore d'offres sur le marché.
Mais ça veut dire, un petit peu comme nous le disait Charles-Henri, pour l'ensemble du process, il faut savoir bien s'entourer et choisir son homme de confiance, finalement, ou sa femme de confiance.
Si on n'a pas d'homme ou de femme de confiance ou autre, d'ailleurs, on peut s'en remettre aux notations en ligne et voir les mieux notés.
Eh bien, voilà un petit mot envoyé aux Français de l'étranger grâce à vous deux. Merci, messieurs, d'être... passé dans Cœur de Patrimoine, Charles-Henri Chenu, donc pour Chenu, Oliveira, Santiago et Thierry Vignal pour Atome. À très bientôt.
Merci.
Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Et puis n'oubliez pas non plus le grand rendez-vous de l'épargne. On se retrouve le vendredi 30 mai à 18h. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions puisqu'on y répondra notamment dans ce grand rendez-vous de l'épargne. Une seule adresse, questions@capital.fr.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.